Bonsoir et bienvenue dans J'aime pas lire. Vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 FM. Et ce soir, nous retrouvons pour la deuxième fois cette saison Lalou au micro à côté de moi.
Bonsoir.
Bienvenue, Lalou.
Bonsoir.
Ça va?
Oui, super.
On a préparé des lectures autour du thème de la cuisine et de la nourriture. Nous sommes désolés si vous avez faim, si le repas cuit ou... Et nous sommes bien désolés si vous n'avez pas trop à manger ce soir, parce qu'on va vous ouvrir l'appétit, il faudra y remédier. Alors, Lalou, on va commencer tout de suite la lecture. On va rentrer dans le vif du sujet.
Allez, car on va se mettre en appétit.
On a des belles lectures ce soir. Et tu nous emmènes d'abord en Italie. Voilà. Avec un livre qui s'appelle La Cucina.
Voilà, un livre de Lily Pryor qui s'appelle La Cucina. C'est l'histoire de Rosa Fiore, qui est issue d'une grande, elle est issue d'une grande famille italienne, sicilienne. Elle est passionnée de nourriture. Et le passage que je vais vous lire, enfin c'est voilà, déjà, juste pour présenter le livre. C'est un livre donc qui parle de nourriture italienne, de toute la sensualité que ça peut aussi qu'on peut éprouver avec la nourriture. Il y a des rencontres, il y a la rencontre entre Rosa Fiore avec un Anglais à qui elle va donner des cours de cuisine, des cours de cuisine qui vont partir complètement. Qui vont prendre des tournures assez incroyables. Enfin, voilà, c'est un livre très sensuel qui donne faim. Et qui est très original.
On a des radis.
Voilà.
Si on a faim, à grignoter en cabine.
Et donc, je vais vous lire un passage de La Cucina. Donc, le grand-père de Rosa Fiore, Nonno Fiore, vient juste de mourir. Donc, je vous lis juste le petit passage qui parle de juste avant qu'on l'inhume et de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive à Rosa Fiore, comment elle gère son chagrin.
On t'écoute.
Lorsque Nonno Fiore est mouru, on exposa le corps sur la table, conformément à la tradition. Le matin de l'enterrement, j'entrepris de le nourrir de panelles frites, ces délicieuses croquettes de pois chiches que je réussissais si bien, certaines qu'elles allaient ramener mon grand-père à la vie. Mais à ma grande déception, je découvris que les panelles ne ressuscitaient pas les morts. Je faillis un court moment perdre confiance dans les vertus de la cuisine. On inhuma donc Nonno Fiore avec de la graisse collée aux moustaches, sa bouche édentée, gonflée de confiture. Il n'y avait donc rien d'extraordinaire à ce que je me réfugie dans la cucina après le drame. Mais personne ne pouvait imaginer l'ampleur qu'allait prendre cette catharsis culinaire. Au début, je fis des pâtes. De mes doigts habiles, je façonnais des rigatoni, des raviolis, des spirali, des spaghettis, des cannelloni et des linguini, tandis que mijotaient en permanence dans d'immenses chaudrons de fer des sauces aux sardines, aux anchois, aux courgettes ou encore au fromage de brebis et au safran, aux pignons, aux groseilles et aux fenouilles. Je dois admettre que j'étais célèbre dans toute la province pour mes plats de pâtes et l'arôme de mes sauces, portées par le vent, était si riche qu'il aurait pu remplir le ventre d'un affamé. Je me mis aussi à faire du pain et bientôt mon pane rimacinato, ma ciabatta et ma focaccia furent les meilleurs de toute la région. Parfois j'ajoutais à la pâte un peu de thym sauvage ou du romarin odorant, frais cueilli, ses feuilles encore humides de rosée. Le secret de leur moelleux tenait à un pétrissage d'une grande vigueur et mes biceps et mes quadriceps n'eurent bientôt rien à envier à ceux des employés de la ferme, tandis que mes pectoraux gonflaient, accroissant les proportions déjà généreuses de mes seins. Une nuit, alors que je frappais et refrappais la pâte contre la table, le bruit de mes activités boulangères dérangea les autres occupants de la fattoria dans leurs activités nocturnes. Le plaisir solitaire de Luigi et les ébats conjugaux de Mama et d'Antonio Calabrese. Laissant son jeune époux en pleine déconfiture, Mama bondit du lit, craignant que Louis, comme nous appelions familièrement Luigi, n'ait à nouveau réussir à introduire en douce dans sa chambre la putain qui officiait à la locanda de lingua glossa. Dans d'autres circonstances, elle lui serait tombée dessus pour le châtier de son comportement honteux. Mais du coup, elle fut soulagée de découvrir qu'il se livrait seul au plaisir charnel. Pieds nus, en chemise de nuit, Mama visita le reste de la maison pour vérifier qu'aucun péché vénal n'était commis sous son toit, risquant de mettre en péril le salut de l'âme de son unique fille et de ses 7 autres fils. Elle découvrit les Siamois, Guerra et Pache, profondément endormis dans les bras l'un de l'autre sur le matelas à l'intérieur de leur petit placard. Leonardo, Mario, Giuliano, Giuseppe et Salvatore tremblaient sous les draps, redoutant une éruption imminente du volcan. « Rosa, filia mia, va te coucher !» dit Mama d'une voix lasse en pénétrant dans la cuisine où je m'étais déjà vigoureusement attaquée à un autre paton. « Plus tard, Mama, plus tard !» répondis-je. En vérité, j'étais si fatiguée que je tenais à peine sur mes pieds. Il n'y avait pourtant rien de mieux que cet épuisant pétrissage pour me détendre et me purifier en me plongeant dans un calme que j'éprouvais de plus en plus rarement. Je faisais tant et tant de pain d'excellente qualité que Paolo Alboni, le panettiere de la ville, craignit de se retrouver au chômage. Bientôt, ni la famille, ni les voisins, ni les amis et les parents éloignés de la province de Catane ne purent suivre ma production et je fus condamnée à en laisser sur une table de fortune sur la route de Randazzo pour nourrir les pèlerins de passage. Une longue file de pauvres et de nécessiteux se forma devant la porte de la cuisine de la fattoria, dans l'attente de la manne, mais Mama les chassa, n'hésitant pas à se servir de ses poings s'ils insistaient trop. Au bout d'un moment, mes économies avaient fondu. J'avais dépensé tout l'argent destiné à l'achat de mon trousseau en farine et autres ingrédients. Je dus alors emprunter. Je devins la proie des multiples usuriers de Randazzo, où je me rendais en charrette pour me procurer le nécessaire au marché noir au prix fort. Dans mon chagrin, je faisais aussi de la sauce tomate en quantité telle que je concurrençais la production de l'usine de Fiume Freddo, l'usine Pomodoro Pronto, alors rackettée par la mafia en échange de sa protection. Un matin, je découvris la tête tranchée d'un de nos chiens de berger posé devant la porte de derrière. Une note y était attachée, me conseillant de cesser ma fabrication de sauce tomate qui nuisait à l'auteur du billet si je ne voulais pas subir de représailles. Je reconnus la main de la mafia, mais je ne m'en souciais guère. Au point où j'en étais, je ne me sentais pas concernée par les menaces de mes semblables. Je jetais donc la tête du chien dans le feu et me lançais dans la conserve. Durant 2 mois, je fis des bocaux d'oranges, d'abricots, de pêches, de poires, framboises, nectarines, prunes et figues, dans un riche sirop parfumé de zeste de citron. Je mis en saumure des olives et des cornichons et fis d'autres bocaux de champignons, de poivrons, d'artichauts et d'asperges à l'huile d'olive. Je fis des pots de confiture et de marmelade, de baies et de fruits qui vinrent garnir les étagères de la cave, chacun soigneusement étiqueté et daté de cette période douloureuse. Une fois nos réserves de fruits et de légumes épuisées, je me tournais vers les animaux élevés par Mama. Je commençais par tuer les cochons, dont mon préféré, Mayale. Il me regarda avec de petits yeux malheureux où se lisait le doute que je puisse mettre un terme à sa vie, mais j'avais dépassé le stade de la compassion. Au moment où j'enfonçais la lame du couteau, je sentis la colère m'abandonner et un grand calme m'envahir pendant quelques brefs instants. Après avoir égorgé les cochons, je recueillis le sang dans des seaux afin de confectionner des saucisses que je servirai plus tard, aromatisées aux graines de fenouil. Ensuite, je salais les jambons, fumais le lard et suspendus le tout au frais dans le garde-manger avant de me lancer dans la confection de tourtes, de boulettes, de ragoûts, de pâtés savoureuses et de rôtis succulents. Je me souviens d'avoir eu du sang sur les mains et parfois même sur le visage durant plusieurs semaines. Je portais aussi un tablier ensanglanté. J'aimais à me promener comme ça, cela faisait de moi quelqu'un de sauvage et de dangereux qui arborait sur son corps les larmes de sang qui coulaient dans son cœur meurtri. Quand j'en eus fini avec les porcs, j'entrepris de tordre le cou au poulet, jusqu'au dernier. Nous finis donc par ne plus avoir deux, et il fallut envoyer d'urgence Luigi au marché de Randazzo, acheter un cajot de poulettes et trois ou quatre poules pondeuses, afin qu'Antonio Calabrese ne manque pas d'uovi pour son petit déjeuner. Je fis assez de polo à la messinesse, une somptueuse préparation dans laquelle le poulet est enrobé d'une mayonnaise parfumée au thon, pour nourrir 300 invités à une noce. Malheureusement, il n'y avait aucun mariage en vue. À la suite de quoi, maman m'interdit de tuer quelque autre animal que ce soit. Je me tournai donc vers les produits laitiers. En faisant bouillir du lait de brebis avec du sel et en écrémant le petit lait avec des brindilles selon la tradition ancienne que m'avait transmise Nonna Fiore, je fabriquais de la ricotta salée en quantité impressionnante et la stockais dans des tonneaux sous le toit de l'étable. Bientôt, la patience de maman fut à bout. La ferme ne produisait plus assez pour suivre mon rythme. Les pâtes et le pain se perdaient, faute de trouver preneur. Les ouvriers agricoles, à force de trop manger, avaient fait du lard et travaillaient moins. On ne trouvait plus un seul fruit, ni un seul légume d'avance. Les jarres d'huile et les vinaigriers étaient vides. Ne restaient que les moutons, les cochons ayant été abattus jusqu'au dernier, tout comme les poulets. Dans ce que maman considérait comme un accès de furie meurtrière. La découverte dans un fossé de la carcasse décomposée de Boli, le chien de berger, constitua un signe encore plus néfaste. De même, le petit lait qui gouttait du toit de l'étable où j'avais placé la ricotta troublait les esprits et les ouvriers les plus superstitieux, soupçonnant la présence du diable, refusaient de pénétrer dans le bâtiment. Mama convoqua au salon toute la famille, mes frères Luigi, Leonardo, Mario, Giuliano, Giuseppe, Salvatore et les Siamois, Guerra et Pace, et son jeune époux Antonio Calabrese. Elle envoya Luigi me chercher, mais je refusais de sortir de la cuisine. « Elle ne veut pas venir, Mama, » dit Luigi en revenant bredouille auprès du petit groupe. Elle dit qu'elle est trop occupée à faire des dolci, de la cassata, des cannoli et de la torta di ricotta. Sans se démonter, Mama s'élança dans le couloir, suivie de la procession familiale, et pénétra dans la cuisine. « Rosa, » commença-t-elle, « ça ne peut pas continuer, cesse de faire toute cette cucina. » Je ne répondis pas. Dans la journée, je mis mes quelques possessions dans une valise, puis décrochant du mur la cage de mon perroquet, Céleste, je quittai Castiglione pour Palerme. Grâce à mon malheur, ma famille eut de quoi manger pendant des années. Pendant la guerre, elle fut la seule de la région à ne pas souffrir de la faim, alors que régnait la pénurie. Ce que Mama avait d'abord considéré comme une malédiction était devenu une bénédiction. Et chaque dimanche à la grand-messe, elle en remerciait le Seigneur. Longtemps après la mort de Bartolomeo et mon départ de la maison, les jambons régalèrent les convives du mariage de Luigi avec la barmette de Lingua Glossa. Et au fur et à mesure que les enfants de mon frère grandissaient, il leur arrivait encore de découvrir la saveur d'une conserve d'abricots ou d'artichauts datant de l'époque où leur tante Rosa avait vécu un drame.
Quel drame ! Quelle frénésie de cuisine ! De nourriture, c'est formidable.
Voilà, je m'excuse pour s'il y a de mauvaises prononciations à toute personne parlant italien.
Ça m'a semblé très bien. Merci pour ce premier texte qui, effectivement, met en appétit, bien que provoqué par la douleur.
Mais vive la cuisine italienne.
Vive la cuisine italienne. J'avais beaucoup apprécié, il y a pas mal d'années, un film britannique qui s'appelle « The Trip to Italy ». Le voyage en Italie, et qui ne parle quasiment que de cuisine. Je vous le conseille.
Je retiens.
On enchaîne ? C'est moi qui enchaîne.
Avec une petite musique italienne.
Avec une petite musique italienne.
Pour rester dans l'ambiance.
Alors on va écouter cette musique magnifique. C'est parti.
Bambina grande dagli occhi blu perché il tempo non passi più. Tieni in mano il mondo così rotrò sopra il cielo, cielo. Piume che volano, tienimi stretta se non cadrò. Questo è il mondo di Turandot. Basta una domanda e lo saprò. Più chi sono, più chi è. Forse è vero. Sto piace più. Tieni mano al mondo così rotto, sopra il cielo, più chi ero, forse è vero. Sto crescendo. E io non piangere bambina, io ti voglio bene, ti amo, ti amo, ti amo. Non piangere bambina, io ti amo.
Un très beau morceau pour finir ce repas italien, cette cucina. Et on va continuer à voyager avec la Lou au micro à ma droite dans J'aime pas lire ce soir. Voyager dans la cuisine, dans la nourriture, dans les repas. Et là, nous allons aller dans un cellier.
En Islande. Voilà, deux extraits, extraits de la saga Caritas, suivi de Chaos sur la toile. Donc ce sont deux gros livres. C'est l'histoire d'une jeune femme peintre, donc sa vie en Islande, et puis après il y a une partie à Paris. Donc ce que je trouve intéressant dans le premier tome, là, c'est qu'on a une petite idée de ce qu'on trouve dans un cellier en Islande.
Le cellier était comme une jeune fille en fleurs qui attend le futur avec impatience. Les provisions d'hiver étaient rentrées. Un tonneau de viande salée et un autre de viande conservée dans le petit lait était blotti près d'un gros sac de pommes de terre. Sucre, café, riz et farine de seigle garnissaient les étagères avec le beurre et le fromage. La seule chose qui manque, ce sont des tubercules, mais j'en ferai l'été prochain, lorsque j'aurai fait pousser un potager, dit Tainun dans ses allées et venues au cellier. J'aurai des rutabagas, des carottes, des navets et de l'oseille d'étrole. La rhubarbe. Elle fermait à chaque fois derrière elle pour que la chaleur de la cuisinière à charbon ne réussisse pas à se glisser dans le froid du garde-manger. Mais elle-même n'avait jamais froid, même si elle restait longtemps à réarranger sa chaise et bocaux et y poussait une invisible poussière des étagères peintes en blanc.
Voilà, et donc ensuite Caritas, le personnage de cette saga, se retrouve à Paris. Donc ça se passe surtout le long du XXe siècle, en fait. Donc là, elle se retrouve à Paris et elle découvre une toute autre nourriture. Elena me fit couper les légumes, dont certains que je n'avais jamais vus. Longues pousses vertes, petits oignons blancs qui sentaient mauvais. Elle fit bouillir les haricots, fit brunir puis cuire le riz à la poêle, mélangea le tout ensemble de sorte qu'il en résulte un ragoût. Coupa les tomates et les pommes de terre froides qu'elle mit à l'huile, puis elle disposa assiette et verre sur la table avec la nappe violette et nous nous installâmes pour le repas. Mangeâmes avec un pain long et mince de farine blanche, bûmes du vin rouge, et pour la première fois, alors, je pris pleinement conscience que j'avais posé les deux pieds dans un autre univers culturel. Ici, la nourriture n'était pas salée ou ne sortait pas sûre d'un tonneau de petit lait. On ne buvait pas de lait avec le repas. Je devais renverser mes vieilles habitudes alimentaires, m'adapter à de nouvelles coutumes, me chercher de nouveaux aliments.
Des nouveaux aliments qui font bien envie.
Et pour enchaîner avec ces repas, cette nourriture d'autres pays, je voulais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle « Terre des oublis » de Duong Thu Huong, qui est une auteure vietnamienne. Je crois que c'est tout d'un coup, je me dis, c'est une femme.
Je crois que c'est une femme.
Et dans ce livre, il y a un petit passage où on a la description d'un repas de mariage. Ohan caresse doucement le dos de sa femme, ne comprenant pas pourquoi elle fait surgir ce souvenir éblouissant des lueurs du foyer, juste en cet instant, quand le coq chante la deuxième veille, alors qu'elle va partir dans quelques heures. Il se rappelle la flamme éclatante dans la cuisine l'hiver dernier. Il venait d'achever la construction de la maison et préparait un festin pour honorer les invités selon la tradition. Ils avaient entamé les préparatifs plusieurs jours auparavant. Ohan avait commandé un veau bien gras pour un plat de veau grillé, le premier plat salé. Mienne se chargeait du second, du poulet à la vapeur agrémenté de citronnelle. Elle avait visité les meilleurs poulaillers du hameau, réservé 30 poulets et demandé à ses amis de les préparer. Le troisième plat salé, du thon mijoté avec de la graisse de porc et du gingembre, Mienne l'avait préparé elle-même. Les gens du hameau de la montagne rêvaient à longueur d'année de poisson. Dans toutes les cérémonies, ils plongeaient leurs baguettes dans l'assiette de poisson, négligeant les autres plats de résistance. Mienne avait aussi acheté toutes sortes d'herbes et de viandes pour faire quelques plats sautés et leur soupe spéciale. Pour le dessert, un gâteau de farine blutée, bourré de pâtes de soja vert, de noix de coco, de graines de sésame noires pilées. Le plus dur était fait. Cette nuit-là, il ne leur restait qu'à surveiller la marmite de gâteaux de riz, à envelopper les gâteaux in fabriqués avec de la farine de riz grillée, de la confiture de soja vert, des courges confites, des graines de pastèque. Ce sont les cadeaux qu'on donne aux invités pour leurs enfants restés à la maison. Ce n'étaient pas les plats principaux du festin, mais on ne pouvait pas les négliger. Et je me suis trompée, c'était pas pour un mariage, c'était pour fêter la nouvelle maison. Excusez-moi.
Quel repas !
Oui.
Beaucoup de viande à chaque fois.
Ouais.
Il va falloir en rediscuter avec les chefs. On va enchaîner sur le dîner de Babette de Karen Blixen, une autrice qu'on connaît plus pour l'adaptation cinématographique de Une ferme en Afrique, qui a donné Out of Africa dans les années 80, je crois. Avec Meryl Streep et Robert Redford, un très beau film.
Et un très beau Robert Redford.
Mais il y a également Le Dîner de Babette, une nouvelle écrite par Karen Blixen, donc une autrice danoise. Et ce film avait été mis au cinéma sur pellicule avec Stéphane Audran. Mm. Un film merveilleux.
Il est magnifique.
Magnifique, ouais. Qui évoque le destin d'une femme qui s'est réfugiée.
D'une cuisinière française. Qui se réfugie au Danemark.
Après la Commune.
Ouais.
Juste après la Commune. Lorsque le démon familier aux cheveux roux ouvrit la porte de la salle à manger et que les invités pénétrèrent lentement dans la pièce, leurs mains se quittèrent et ils gardèrent un profond silence. Mais ce silence était doux et sympathique, car, par la pensée, il se tenait toujours par la main et chantait encore. Babette avait posé un des chandeliers au milieu de la table. Les petites flammes éclairaient les complets et les robes noires, ainsi que l'uniforme écarlate du général. Elle se reflétait aussi dans les yeux humides de la confrérie. À leur lumière, le général Lohan Ilm vit le visage de Martine comme il l'avait vu lors de son départ 30 ans plus tôt. 30 ans passés à Berlevague, excusez-moi pour les noms, avaient marqué ses traits. Les cheveux d'or étaient maintenant striés d'argent. Le visage, pareil à une fleur, avait lentement pris la teinte de l'albâtre. Mais que le front était resté pur. Quelle quiétude rayonnait dans les yeux. Que ses yeux inspiraient confiance. Que le dessin de ses lèvres était suave, comme si jamais elle n'avait prononcé une parole de colère. Lorsque tout le monde fut assis, un des membres de la communauté, le plus ancien, rendit grâce en récitant le verset composé par le pasteur lui-même. Puisse ce repas maintenir la force de mon corps. Puisse mon corps soutenir les forces de mon âme. Puisse mon âme, en acte et en parole, louer le Seigneur pour tous ses bienfaits. Au mot de « repas », les invités inclinèrent leur tête sur leurs mains jointes, se rappelant qu'ils avaient promis de ne pas dire un mot concernant la nourriture. Et ils renouvelèrent cette promesse dans leur cœur. Ils n'accorderaient même pas une pensée à ce qu'on leur servirait. Ils étaient installés autour d'une table servie. Eh bien, n'avait-on pas fait de même aux noces de Cana ? et la grâce avait choisi de se manifester à ses noces, dans le vin même, plus abondante que jamais. Le familier de Babette remplit les verres. Les hôtes les portèrent gravement à leurs lèvres pour confirmer leur résolution. Le général Löwenhielm, qui se méfiait un peu de ce vin, en prit une gorgée, s'arrêta, éleva son verre jusqu'à son nez, puis jusqu'à ses yeux. Il était stupéfait. « Ceci est fort étrange, pensa-t-il. Voilà de l'amontillado, et le meilleur amontillado que j'ai dégusté de ma vie. » Un peu plus tard, pour se remettre de sa surprise, il prit une cuillerée de potage, en prit une seconde, puis il déposa sa cuillère. « Étrange, de plus en plus étrange, » murmura-t-il, « car il est évident que je mange un potage à la tortue. Et quel potage ?» Pris d'une sorte de curieuse panique, le général vida son verre. Les habitants de Berlevag n'avaient pas l'habitude de beaucoup parler en mangeant, mais les langues se délièrent en quelque sorte ce soir-là. Un vieux frère raconta sa première rencontre avec le pasteur. Un autre parla du sermon qui l'avait converti 60 ans plus tôt. Une femme âgée, celle qui avait reçu les confidences de Martine concernant ses inquiétudes, rappela à ses amis que dans l'affliction, le devoir de tous les frères et de toutes les sœurs leur commandait de partager avec empressement les fardeaux des autres. Le général Löwenhielm, qui devait diriger la conversation, dit que le recueil de sermons du pasteur était un des livres préférés de la reine. Mais l'arrivée d'un nouveau plat réduisit le général au silence. « Incroyable ! Incroyable ! » se disait-il in petto. « Ce sont des blinis, des midoffs. » Il jeta un regard sur les autres convives. Ils mangeaient, paisiblement, leur blini de midoffs, sans le moindre signe de surprise ou d'approbation, comme s'ils n'avaient fait que cela tous les jours pendant 30 ans. De l'autre côté de la table, une sœur évoqua des faits étranges qui s'étaient passés au temps où le pasteur était encore parmi ses enfants et qu'on pourrait qualifier de miracle. Les autres se rappelaient-ils que le pasteur avait promis de faire un sermon de Noël dans un village situé de l'autre côté du fjord ? Il avait fait si mauvais temps pendant 15 jours que pas un marin, pas un pêcheur ne se risquait à faire la traversée. Le village perdit tout espoir de voir arriver le prédicateur. Mais celui-ci annonça que si aucune barque ne le transportait, il marcherait sur la mer. Et vous en souvenez-vous ? La veille de Noël, la tempête cessa, le gel s'installa et le fjord ne fut plus qu'une glace d'une rive à l'autre. La chose ne s'était pas produite de mémoire d'homme. Le serveur remplit les verres une fois de plus. Cette fois, les frères et les sœurs reconnurent que ce qu'on leur versait n'était pas du vin, car le liquide pétillait. Ce devait être une espèce de limonade. Cette limonade convenait parfaitement à l'exaltation de leurs esprits. Ils avaient l'impression qu'elle les emportait au-delà de la terre, dans une sphère plus pure, plus éthérée. Le général Löwenhielm déposa son verre et se retournant vers son voisin lui dit « Voilà certainement du veuf Clicquot, 1860. » Le voisin lui adressa un sourire amical et lui parla du temps qu'il faisait. Je vais m'arrêter là pour la lecture du festin de Babette.
Oh, super, je voyais défiler les images du film.
Ouais.
Avec toute cette communauté de gens extrêmement puritains qui essayent de surtout pas montrer le moindre plaisir qu'ils prennent en mangeant.
Le repas va être très long et avec de nombreux plats, mais nous n'avons pas le temps de tout lire ce soir.
Il faut le lire.
Il faut le lire.
Il faut voir le film.
Est-ce qu'on écoute un peu de musique avant que tu nous embarques dans les épices de la passion ?
On peut.
On écoute Ibéi ?
Allez.
On écoute Ibéi. Le nouveau titre du duo qui s'appelle Asset. I am a serious rising. I keep stealing their knowledge. Now I know to the nation. De retour en direct dans J'aime pas lire sur Radio Canu 102.2 FM, la plus rebelle et la plus gourmande ce soir des radios. On écoute Lalou qui nous lit un extrait des Épices de la Passion.
Les Épices de la Passion, c'est un livre de Laura Esquivel, c'est une auteure mexicaine. Donc là, on va plonger dans la nourriture latine, sud-américaine. Je vais vous lire. Alors, donc, juste pour replacer, pour que vous ne soyez pas perdus avec les personnages, donc c'est l'histoire de Tita, qui est la cadette d'une famille. Elles sont trois sœurs. Il y a Tita, il y a Gertrudis et il y a Rosaura. Et ce qui est très triste, c'est que Pedro, qui est fou amoureux de Tita et que Tita aime aussi, est obligé d'épouser l'aînée, Rosaura, puisque la cadette est censée s'occuper de ses parents et de rester avec eux. Donc, il ne peut pas épouser la femme qu'il aime. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnage? On entend parler de Nasha, c'était l'ancienne cuisinière qui a tout appris à Tita, et Mama Elena, qui est donc la maman des trois sœurs. Chaque chapitre commence par une recette, en fait. Donc je vais vous lire le chapitre 3. Mars, caille aux pétales de rose. Ingrédients. 12 roses, rouges de préférence, 12 châtaignes, 2 cuillerées de beurre, 2 cuillerées de fécule de maïs, 2 gouttes d'essence de rose, 2 cuillerées d'anis, 2 cuillerées de miel, 2 gousses d'ail, 6 cailles. Recette. On détache soigneusement les pétales de rose en faisant attention de ne pas se piquer les doigts. En effet, ce n'est pas seulement très douloureux, la piqûre, mais les pétales peuvent s'imprégner de sang, ce qui altère la saveur du plat et provoque le cas échéant des réactions chimiques, dangereuses qui plus est. Mais Tita était incapable de se souvenir de ce petit détail. Elle était en proie à une intense émotion car elle venait de recevoir un bouquet de roses des mains de Pedro. C'était la première émotion profonde qu'elle ressentait depuis le jour des noces de sa sœur, quand Pedro lui avait déclaré un amour qu'il essayait de cacher aux yeux des autres. Mama Elena, avec cet esprit rapide et aiguisé qui la caractérisait, soupçonnait ce qui pourrait advenir si Tita et Pedro avaient l'occasion de se retrouver seul à seul. Témoignant d'un extraordinaire talent d'escamoteur, elle avait donc fait des merveilles pour les tenir éloignés l'un de l'autre, les empêchant même d'échanger un regard. Pourtant, un détail infime lui avait échappé. À la mort de Nasha, Tita était la plus apte des femmes de la maison à occuper le poste laissé vacant à la cuisine. Et là, les saveurs, les odeurs, les mixtures et leurs effets éventuels échappaient à son contrôle rigoureux. Tita était le dernier maillon d'une chaîne de cuisinières qui s'était transmise depuis l'époque préhispanique et de génération en génération les secrets de la cuisine, et on la tenait pour la meilleure représentante de cet art merveilleux, l'art culinaire. Sa nomination en qualité de cuisinière officielle de la ferme fut donc très bien accueillie par tout le monde et Tita accepta la charge avec plaisir. Elle serrait les roses contre elle avec une telle force que les fleurs, d'une couleur rose à l'origine, étaient devenues rouges du sang de ses mains et de sa poitrine lorsqu'elle arriva à la cuisine. Elle devait vite leur trouver une utilisation, elles étaient si belles. Impossible de les jeter à la poubelle, d'abord parce que c'était le premier bouquet qu'elle recevait, et ensuite parce que c'était un cadeau de Pedro. Soudain, elle entendit distinctement la voix de Nasha lui dicter à l'oreille une recette précolombienne où l'on employait des pétales de rose. Tita l'avait plus ou moins oubliée. Pour la réaliser, il fallait des faisans, et à la ferme, on ne s'était jamais livré à ce type d'élevage. En ce moment, on ne disposait que de cailles, si bien qu'elle décida de modifier légèrement la recette de façon à utiliser les fleurs. Une fois les cailles plumées et vidées, on leur joint et attache les pattes pour qu'elles gardent une position gracieuse, tandis qu'on les fait dorer dans le beurre, saupoudrer de poivre et de sel à volonté. Il est important de plumer les cailles à sec. Les plonger dans l'eau bouillante altère la saveur de leur chair. C'était l'un des innombrables secrets de la cuisine seulement acquis avec la pratique. Comme Rosaura n'avait pas voulu participer aux occupations culinaires depuis qu'elle s'était brûlée les mains sur le comal, elle ignorait bien sûr sur celle-là et de nombreuses autres connaissances gastronomiques. Pourtant, était-ce pour impressionner Pedro, son mari, ou pour concurrencer Tita sur son propre terrain, elle se risqua un jour à cuisiner. Lorsque Tita, aimable, voulut lui donner quelques conseils, Rosaura se vexa profondément et la pria de la laisser seule dans la cuisine. Comme il fallait s'y attendre, son riz colla. Elle sala trop sa viande et son dessert se calcina. À table, personne n'osa esquisser la moindre mimique de mécontentement, car Mama Elena avait commenté en guise de suggestion « C'est la première fois que Rosaura fait la cuisine et j'estime qu'elle ne s'est pas si mal débrouillée. Qu'en pensez-vous, Pedro ?» Au prix d'un effort surhumain, Pedro répondit sans vouloir blesser sa femme « Non, pour une première fois, ce n'est pas si mal. » Bien entendu, cet après-midi-là, toute la famille eut mal à l'estomac. Ce fut une véritable tragédie, sans commune mesure, certes, avec celle que connut la ferme le jour des cailles. La fusion entre le sang de Tita et les pétales de rose que lui avait offertes Pedro se révéla des plus explosives. Quand ils s'assirent à table, il régnait une atmosphère légèrement tendue, mais sans plus, tant qu'on n'eut pas servi les cailles. Non content d'avoir provoqué la jalousie de sa femme, incapable de se contenir, les yeux fermés avec une véritable expression de luxure, Pedro s'exclama en savourant la première bouchée du plat « Voilà un plaisir des dieux !» Mama Elena reconnaissait qu'il s'agissait d'un mets vraiment délicieux, mais elle dit, irritée par le commentaire « Trop de sel !» Prétextant des nausées et des vertiges, Rosaura n'avala que 3 bouchées. En revanche, il arriva quelque chose d'étrange à Gertrudis. On aurait dit que l'aliment qu'elle était en train d'ingérer produisait sur elle un effet aphrodisiaque, car elle commença à éprouver une chaleur intense dans les jambes. Un chatouillement au milieu de son corps l'empêchait de rester correctement assise sur sa chaise. Elle se mit à transpirer et à imaginer ce qu'elle ressentirait à cheval, dans les bras d'un partisan de Pancho Villa, l'un de ceux qu'elle avait vu la semaine précédente pénétrer sur la place du village, sentant la sueur, la terre, les petits matins de danger et d'incertitude, la vie et la mort. Elle se rendait au marché avec la servante, Chencha, lorsqu'elle le vit entrer par la rue principale de Piedras Negras, à la tête d'une troupe dont il était manifestement le chef. Leurs regards se croisèrent et ce qu'elle lut dans les yeux de l'homme la fit trembler. Elle vit de nombreuses nuits passées près du feu, à désirer la compagnie d'une femme qu'il pourrait embrasser, d'une femme qu'il pourrait étreindre, d'une femme comme elle. Elle sortit son mouchoir et tenta de chasser en même temps que sa sueur toutes ses coupables pensées. Peine perdue. Il se passait quelque chose de bizarre. Elle chercha de l'aide auprès de Tita, mais cette dernière était absente. Son corps était sur la chaise, assis dans une attitude très correcte, certes, mais ses yeux ne donnaient aucun signe de vie. On eût dit que par un extraordinaire phénomène d'alchimie, son être s'était dissous dans la sauce des roses, dans le corps des cailles, dans le vin et dans chacune des odeurs du repas. Elle s'insinuait ainsi dans le corps de Pedro, voluptueuse, aromatique, sensuelle, chaude, totalement sensuelle. Il semblait avoir découvert un nouveau code de communication où Tita était l'émetteur, Pedro le récepteur et Gertrudis l'heureuse élue en laquelle se synthétisait cette singulière relation sexuelle par le biais de la nourriture. Pedro n'opposa aucune résistance. Il la laissa pénétrer jusqu'au plus profond de son être sans parvenir à détacher les yeux de des siens. Il lui dit « Je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. Merci beaucoup. » Il faut dire que ce mets est vraiment délicieux. Les roses lui confèrent une saveur des plus raffinées. Une fois les roses effeuillées, on moule les pétales dans le moule carété avec de l'anis. On met les châtaignes adorées à part sur le comal. On les pèle et on les cuit à l'eau. Ensuite, on les écrase en purée. L'ail est haché menu puis doré au beurre. Et quand il devient transparent, on ajoute la purée des châtaignes, le miel, les pétales de rose et du sel. Pour épaissir la sauce, on peut mettre 2 petites cuillerées de fécule de maïs. Ensuite, on verse 2 gouttes d'essence de rose, pas plus, de peur qu'elle ne reste trop parfumée et douceâtre. Dès qu'elle est assaisonnée, on la retire du feu. Les cailles ne sont plongées que 10 minutes dans cette sauce pour s'imbiber du goût, puis aussitôt retirées. L'arôme de l'essence de rose est si pénétrant que le mortier utilisé pour moudre les pétales en demeure imprégné pendant plusieurs jours.
Oh là 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 là!
C'est chaud!
C'est chaud.
Et je vous raconte pas ce qui se passe après.
Eh ben.
Parce que Gertrudis, elle va partir en feu.
Laura Esquivel, Les épices de la passion, vous. C'est un livre que vous pouvez trouver en poche.
Voilà.
On a deux petits poèmes à vous proposer. Je vais commencer. Comme ça, tu reprends un peu ton souffle.
Voilà.
Par un poème sur les sardines à l'huile. Eh oui, il y a des gens qui écrivent des poèmes merveilleux sur les sardines à l'huile. Et le voici. Dans leur cercueil de fer blanc, plein d'huile au puant relent, Marine décapitée ses petits corps argentés, pareil aux guillotinés là-bas, au champ des navets. Elles ont vu les mers, les côtes grises de Tulé, sous les brumes argentées, la mer du Nord enchantée. Maintenant dans le fer blanc et l'huile au puant relent, de toxiques restaurants les servent à leurs clients. Mais loin derrière la nue, leur pauvre amette ingénue dit sa muette chanson au paradis des poissons, une mer fraîche et lunaire, pâle comme un poitrinaire, la mer de sérénité aux longs reflets argentés, où durant l'éternité, sans plus craindre jamais les cormorans et les filets, après leur mort nageront tous les bons petits poissons. Sans voix, sans mains, sans genoux, sardines, priez pour nous. Et c'est un poème de Georges Fouret, 1867-1945. Merci pour cette trouvaille.
Et on peut aussi écrire des poèmes sur les petits pâtés.
Les petits pâtés vaudois.
Voilà, message aux Chablaisiens qui connaissent sûrement les petits pâtés et qui sont souvent des petits pâtés vaudois. Les petits pâtés. Assise à l'arrière de la vieille Renault, au milieu des denrées achetées au marché, olives à la grecque, salades, pommes, poireaux, il était un arrêt aussi attendu qu'obligé, la boucherie du tonton Jeannot. Invariablement, quel que soit l'itinéraire, terrain connu mais mystérieux, sentiment d'appartenance de mon père à une lignée, à un lieu, sur notre route comme un repère. Étalage de viande derrière les vitres du comptoir, chapelet de saucisses sur fougères en plastique, allongés côte à côte, lapin rose à gros yeux noirs, montagne de cuisses et fleurs de carottes magnifiques, palerons, araignées, ronds de gîte, joues, noix et poires, et couronnant cette débauche écarlate, trônant sur leurs plats argentés, bombés, brillants, dorés, dans leurs croûtes délicates, mon trésor, mon graal, les petits pâtés, je ne voyais que monticules de bonheur, hypnotisés par leurs petits chapeaux dentelés, fourrés d'une farce aux multiples saveurs, viande hachée, persil, gelée. Je sortais, heureux et comblé, tenant dans mes mains un présent inégalé, dans son papier rose du boucher, mon petit pâté emballé. Petite dédicace à mon cher papa. Si tu nous entends depuis là-haut, c'est pour toi.
Merci de nous avoir partagé ce poème. Non seulement il est très chouette, mais il est personnel. Et on apprécie d'autant plus le partage avec le cœur.
Merci.
Et l'estomac. D'estomac, il en est question, mais ceux-là ne sont pas bien remplis. Il s'agit du chapitre 7 de Paris au XXe siècle de Jules Verne, un ouvrage qui imagine donc la vie des Parisiens au XXe siècle du point de vue de l'ami Jules Verne. Trois bouches inutiles à la société. Après la fermeture des bureaux, les deux amis se dirigèrent vers la demeure de Quinsonnas, située rue Grand-Jobel. Ils s'en allèrent bras dessus, bras dessous, Michel heureux de sa liberté. Il faisait des pas de conquérant. Il y a loin de la maison de banque à la rue Grand-Jobel. Mais se loger était difficile alors dans une capitale trop petite pour ses 5 millions d'habitants. À force d'élargir les places, de percer des avenues et de multiplier les boulevards, le terrain menaçait de manquer aux habitations particulières. Ce qui justifiait ce mot du temps, à Paris, il n'y a plus de maisons, il n'y a que des rues. Certains quartiers même n'offraient pas un seul logement aux habitants de la capitale, entre autres la Cité, où s'élevait seulement le tribunal de commerce, le palais de justice, la préfecture de police, la cathédrale, la morgue, c'est-à-dire de quoi être déclaré failli, condamné, emprisonné, enterré et même repêché. Les édifices avaient chassé les maisons. Quinsonnas demeurait au 12e étage, dans une vieille maison à escalier, qu'un ascenseur eût remplacé avec avantage. Mais le musicien ne s'en trouvait pas plus mal, une fois chez lui. Arrivé rue Grand-Jobel, il s'élança dans la vis tournante. « Ne crains pas de monter toujours, » dit-il à Michel, qui le suivit dans son vol. « Nous arriverons. Rien n'est éternel en ce monde, pas même les escaliers. » Voilà. Fit-il en ouvrant lui-même sa porte après une essoufflante ascension. Il poussa le jeune homme dans ses appartements, une chambre de 16 mètres carrés. « Pas d'antichambre, lui dit-il, c'est bon pour les gens qui font attendre, et comme la foule des solliciteurs ne se précipitera jamais à mon 12e étage, par cette raison physique que l'on ne se précipite pas de bas en haut, je me passe de cette superfluité. J'ai également supprimé le salon qui eût trop fait remarquer l'absence de la salle à manger. « Mais tu me parais fort bien ici, » dit Michel. « En aussi bon air, du moins, que le permet l'ammoniaque des bouts de Paris. » On arrive au repas. « Cela semble petit au premier abord, » dit Michel, « et au second aussi, mais c'est suffisant. D'ailleurs, c'est bien distribué, » répondit Michel en riant. « Eh bien, la mère, » dit Quinsonnas à une vieille femme qui entrait en ce moment. « Le dîner est-il en train? Nous serions trois convives affamés. »« Cela marche, monsieur Quinsonnas, » répondit la femme de ménage, « mais je n'ai pu mettre le couvert, faute de table. »« Nous nous en passerons, » s'écria Michel, qui trouvait charmante cette perspective de dîner sur ses genoux. « Comment nous nous en passerons ?» répliqua Quinsonnas. « T'imagines-tu que j'invite des amis à dîner sans avoir une table à leur offrir ?»« Je ne vois pas, » répondit Michel en jetant un coup d'œil inutile autour de lui. La chambre, en effet, ne contenait ni table, ni lit, ni armoire, ni commode, ni chaise. Pas un meuble, mais un piano considérable. « Tu ne vois pas, » répondit Quinsonnas. « Eh bien, l'industrie, cette bonne mère, et la mécanique, cette bonne fille, tu les oublies donc ? Voici la table demandée. » Ce disant, il s'approcha du piano, pressa un bouton et fit jaillir, c'est le mot, une table munie de bancs à laquelle trois convives pouvaient tenir à l'aise. « C'est ingénieux, » fit Michel. « Il a bien fallu en venir là, » répondit le pianiste, puisque l'exiguïté des appartements ne permettait plus d'avoir des meubles spéciaux. En ce moment, le timbre de la porte résonna. Quinsonnas ouvrit et annonça son ami Jacques Aubanet. Jacques Aubanet, joli garçon de 25 ans, était fort lié avec Quinsonnas et déclassé comme lui. Michel ne savait pas à quel genre de travaux la compagnie des mines en mer occupait ses employés. Mais Jacques en rapportait un appétit formidable. Le repas était heureusement prêt. Les trois jeunes gens dévorèrent. Après le premier instant de cette lutte avec les comestibles, quelques paroles se livrèrent en fin passage à travers les morceaux moins hâtés. Mon cher Jacques, dit Quinsonnas en te présentant Michel Dufresnoy, j'ai voulu te faire connaître un jeune ami qui est des nôtres, un de ces pauvres diables auxquels la société refuse l'emploi de leurs aptitudes, une de ces bouches inutiles que l'on cadenasse pour ne pas les nourrir. « Ah, monsieur Dufresnoy est un rêveur, » répondit Jacques. « Un poète, mon ami, et je te demande un peu ce qu'il est venu faire en ce monde où le premier devoir de l'homme est de gagner de l'argent. » Évidemment, reprit Jacques, il s'est trompé de planète. Mes amis, dit Michel, vous n'êtes pas encourageant, mais je fais la part de vos exagérations. Je vais finir là le passage. Il n'est point question de nourriture plus en avant, mais de difficulté à l'obtenir. Et je vous conseille grandement de lire Paris au XXe siècle de Jules Verne, qui a des propositions sur l'avenir, un avenir qui pour nous est devenu désormais un passé, des propositions assez phénoménales.
Comme toujours chez Jules Verne.
Comme toujours chez Jules Verne.
Et dans l'idée de pas grand-chose à manger, j'ai sélectionné un passage de ce livre qui s'appelle « Dans la forêt » de Jean Egland. C'est l'histoire de Nell et Eva. Elles ont 17 et 18 ans. Et suite à une épidémie, la civilisation s'effondre et disparaît. Elles se retrouvent toutes les deux, presque. Je ne vous en dis pas plus, mais surtout, elles doivent survivre avec, une fois qu'elles ont épuisé toutes leurs réserves, il va falloir qu'elles trouvent dans la forêt de quoi se nourrir. Heureusement, elles ont des livres. Dans leur maison, il y avait beaucoup de livres qui expliquent comment trouver à manger dans la nature.
On t'écoute.
Il n'y a pas grand-chose dans la forêt qui ait atteint son plein développement au milieu de l'été. Les choux précoces sont si durs et amers que nous ne pouvons pas les manger. Et les fruits d'automne, et les noix, et les graines ne sont pas encore mûrs. Mais jusqu'à présent, j'ai essayé le cresson, le pourpier, le plantain, la bourse à pasteur, les racines de chlorogalum, l'oseille sauvage, le chénopode de berlandier, l'amarante, les feuilles de moutarde sauvage et la clétonie perfoliée d'un carré tardif. Petit à petit, je démêle la forêt, attache des noms aux plantes qui la peuplent. Les feuilles que nous utilisons comme papier toilette sont des feuilles de molène. La plante avec les fleurs comme des pâquerettes qui poussent près de l'atelier est de la matricaire, une cousine de la camomille. L'herbe dans le potager avec les feuilles triangulaires est de la bourse à pasteur. Depuis toujours, les buissons qui bordent la route sont des noisetiers et les fleurs que nous avons déposées sur la tombe de notre père sont des syzygiums dont la racine est censée faire tomber la fièvre et soulager un estomac dérangé. D'après le livre, les plantes indigènes, les érables de la forêt produiront de la sève sucrée, les feuilles des padanes peuvent nous donner du sel et les Indiens qui vivaient là autrefois utilisaient la mousse espagnole comme couche pour les bébés. Le pavot de Californie comme antidouleur, la farine de gland moisie comme antibiotique. Il existe des plantes pour stopper la fièvre, des plantes pour soulager le rhume, des plantes pour apaiser les rougeurs et les douleurs menstruelles. Il existe des plantes pour augmenter les contractions et diminuer la douleur pendant le travail, des plantes pour rendre le bébé fort, des plantes pour favoriser les montées de lait. Et il y a des tisanes. Pendant des mois, nous avons bu de l'eau chaude, alors que nous aurions pu boire des tisanes de menthe sauvage, d'églantier, de mûre, de baie, de mahonia fohou, de moutarde noire, de menthe pulio, de manzanita, de graines de fenouil commun, de petites oseilles, d'ortie, d'aiguilles de pin, d'écorce d'arbousier d'Amérique, de yerba buena, de sauge noire, de matricaire odorante, de violette, de framboise sauvage. Et il y a les glands. Au dire des plantes indigènes, dans le monde entier et de tout temps, les glands ont servi de base au régime de nombreux peuples, dont les Japonais, les Chinois, les premiers Méditerranéens et les Nord-Américains. Les glands ont été prisés comme source de nourriture pour leur abondance et leur valeur nutritionnelle. Dans l'Ouest américain, par exemple, plusieurs variétés de chênes appréciées par les tribus indiennes pouvaient donner entre 227 et 450 kg de glands par arbre et par an. Bien que la saison de production des glands ne dure que quelques semaines, il a été estimé qu'un ouvrier assidu et travaillant 8 heures par jour est capable de ramasser plus de 4 tonnes de fruits. Une telle récolte pourrait nourrir une famille de 5 personnes pendant plus d'un an, fournissant plus de 5000 kilocalories et 50 grammes de protéines par jour par personne. J'ai vécu dans une forêt de chênes toute ma vie, il ne m'est jamais venu à l'idée que je pouvais manger un gland.
Merci pour cette sélection de textes et pour le tips de survie en forêt avec les glands. Nous nous retrouverons à la saison prochaine, j'espère, Lalou,
ben oui,
pour de nouvelles lectures ensemble. On se quittera avec un morceau de Stick le rappeur toulousain, un morceau qui s'appelle Vorace. Mais avant de l'écouter pleinement, je voulais vous indiquer une petite page de publicité. Pour samedi soir, il y a l'ami Henri de Voodoo Prod que nous avions reçu à ce micro il y a quelques semaines qui organise un concert. Je vous invite à vous renseigner sur la page de Voodoo Prod. Il y aura Bustaflex en concert et c'est assez exceptionnel. On se retrouve la semaine prochaine avec Laurence de l'Orchestre de Lecteurs et la semaine d'après avec Ben. Mais pour le moment, on écoute Stick Vorace et on remercie Lalou. À bientôt.
Merci pour l'invitation.
La bouffe c'est la pire des gueudrons, vu que si tu manges pas tu meurs. Je vais pas tourner autour du pot au feu ou cuire mais pas d'une heure. Je peux pas tenir, y'en a qui se nourrissent sur le pouce, ça leur suffit. Moi je te dévore tout le bras et j'ai de la place pour un smoothie. Vaut mieux m'avoir en selfie, la tache de gras sur ma chemise, c'est pas ma faute. J'ai la devise de Caradoc, le paradoxe. Plus tu bouffes, plus ça va pas. Mais quand ça va pas, tu bouffes et patati et patata. Depuis petit peu, je suis le patapouf, le pas beau gosse qui aime pas ta pouf. Fais des efforts, mais je tire la gueule en épluchant ma patate douce. Regarde mon bol de spécial K et j'ai des envies de suicide. Je suis pas lucide tant que j'ai pas des glutimes et glucides. On n'est pas tous égaux et on va pas en faire un drame. Mais y'en a qui bouffent que de la merde et qui prennent pas un gramme. En plus, ils font même pas de sport, ça doit être l'éclat de Sissi. Moi, je prends 2 kilos rien qu'en passant devant une pâtisserie. Fais pas de chichi, remplis l'assiette, j'suis pas venu trier les lentilles. Sois tranquille, avant, j'pesais presque 130 kilos. J'pourrais bouffer jusqu'à trépas. J'viens de là où les tontons te traitent de fiotte si t'avales pas. 2 kilos de viande à chaque repas, ça casse les chiottes 3 fois par jour. En avoir le cul qui saigne, j'tue la tête. Demain je vais chanter comme une musicienne. Je commandais les kebabs par deux les soirs de cuite. Et j'enchaînais les soirs de cuite, deux soirs de suite. Je suis toujours à faire des régimes comme cette salope de Bridget Jones. Je rentre plus dans mes jeans, c'est la carotte. Privé de jokes, je suis privé de sauce, je suis privé de dessert. Crois-moi, j'ai bouffé des choses que tu m'aurais supplié de bégère. Des fois je le prends à la légère, des fois à la lourde. Je suis dans le hood à dégommer du maroil avec maroil hood. 3 litres de coca dans la gourde, 2 sauciflards dans la poche. Wesh, ils avaient rien à ma taille à la coste. Bien défoncé mon estomac, c'est le gouffre de Helm. J'y pense tout le temps, même pendant qu'on me bouffe le nem. Je vois ta moule, ton abricot de la crème sur mon spaghetti. Pas étonnant que la baisse m'ouvre l'appétit. Plateau de charcuterie à l'apéro, fromage olive chips. J'prends entre 10 et 20 kilos quand j'suis au chômage. Holy shit, j'dégouline de la graisse par tous les orifices. J'me sens proche de mes auditrices, pour orange sur mes jolies cuisses. Vu que j'en ai aucune, je vais au buffet à volonté jusqu'à la fermeture. Je suis bien trop mou pour faire le dur. J'ai des putains de vergetures, pire qu'une daronne de quintuplé. J'ai trop de vices, je me demande quel cancer pourra bien me buter. Est-ce qu'ils vont m'amputer à cause de la goutte? Ça me ferait une belle jambe. Resserre-moi encore de la soupe. Je veux peser comme une légende. Pis ton frigo dans ton after fatch. Appelle-moi gros corps malade, grand master flask.
Le bon monster, hein. T'as pas vu bête mal? Vas-y, envoie gros. Ouais.
Stickez vos races, niquez vos races, 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 stickez vos races, stickez vos races, stickez vos races, niquez vos races, stickez vos races, stickez vos races, stickez vos races, niquez vos races, stickez vos races, stickez vos races, stickez vos races, niquez 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 vos races, vos races.
Crazy motherfuckers.